droit au micro, lui. Voilà, alors donc, merci de m'avoir invité à venir vous parler de la courbe de Gauss. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me situer, parce que bon, je suis prof de maths quand même, et donc j'ai eu beaucoup de mal à me situer et à essayer de faire quelque chose qui soit accessible à tout public, comme on me l'avait demandé. Alors, donc, j'ai essayé d'évacuer le maximum de choses théoriques. Alors, je ne sais pas quel profil vous avez, mais si ça va trop loin ou pas assez, au contraire, n'hésitez pas à intervenir, à me poser des questions, même en cours de route. Il y a des choses que je peux rajouter, que je peux développer, ou au contraire, développer davantage s'il y avait besoin. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne me dérange pas. Voilà. Alors, j'ai prévu une... Attends, si je commence à faire des bêtises, ça ne va pas aller. Voilà. Que je fasse ça, voilà. Alors, donc, j'ai prévu une intervention en plusieurs points. D'abord, avant de dire cette courbe de Gauss, d'où vient-elle, à quoi sert-elle, on va peut-être dire qui est-elle. On va essayer de voir qu'est-ce que c'est, comment elle fonctionne, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, donc, on examinera d'où vient-elle à partir de faits historiques. Alors, je n'ai pas été complètement développer toute la partie historique, mais mes points de départ, chaque fois, ce sont des recherches qui ont été effectuées, donc essentiellement au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, d'abord, sur la répétition d'expériences aléatoires, puis ensuite, en lien avec ça, sur les distributions binomiales, pour en arriver donc à ce qui s'est développé plutôt au XIXe siècle, sur la théorie des erreurs, et on verra donc un peu tout ça. Et ensuite, dans la partie à quoi sert-elle, ce seront des choses plus actuelles, donc sur des choses qui sont enseignées maintenant dans les programmes de lycée, en particulier les intervalles de fluctuation, donc à quoi ça sert dans la vie actuelle pour tout ça, les intervalles de confiance, de la même façon. J'essaierai de voir un peu des choses qui vont un peu plus loin que la courbe de Gauss. On verra qu'il y a aussi des surfaces de Gauss et comment tout ça se génère. Les autres lois de probabilité qu'elle a engendrées. Alors ça, j'en dirai un petit mot sans aller bien en profondeur. Et puis à la fin, donc, je ferai le bilan sur les mathématiciens qui ont participé à l'élaboration de cette courbe de Gauss. Voilà. Et à la fin, donc, vous aurez aussi une partie bibliographique pour tout ça. Alors, si on commence par qui est-elle, eh bien, c'est une courbe qui est aussi appelée souvent une courbe en cloche. Parfois, on l'appelle aussi courbe en chapeau de gendarme, donc, mais des gendarmes de l'ancien temps, pas des gendarmes de maintenant. Mais si on la regarde telle qu'elle est, c'est une courbe qui a cette allure-là. Alors, qu'on retrouve dans de nombreux contextes, et on verra pourquoi par la suite, et comment elle s'utilise. Et si on la regarde d'un point de vue mathématique, ça sera un peu des choses de ce type-là auxquelles je m'intéresserai. Donc, elle a une équation du type y égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 de x au carré. Voilà. Donc, ça, c'est la formule, vraiment la. Attendez, je vais revenir en arrière, zut. Voilà. Voilà. Donc, une formule qui est une formule compliquée au premier abord, puisque dedans interviennent deux nombres un peu pathologiques. Des mathématiques, d'une part le nombre pi, donc à qui on a été obligé de donner un nom parce qu'on ne pouvait pas l'écrire, et le nombre e qui est du même registre, donc qui est la base des logarithmes népériens. Et il y a ces deux nombres-là qui se conjuguent dans cette formule et qui donnent naissance à cette courbe-là. Alors cette courbe-là, elle a des propriétés particulières. Alors en particulier, elle a un axe de symétrie, donc l'axe des ordonnées ici, et elle a deux points d'inflexion. Qui correspondent donc pour celle que j'ai présentée au point d'abscisse moins 1 et 1. Un point d'inflexion, c'est un point où la courbe elle change de concavité. Vous voyez ici, son arrondi est par là, et là, l'arrondi est vers l'intérieur dans les deux cas. Donc l'inflexion, la façon dont la courbe s'infléchit, change à ces endroits-là. Donc ça, ce seront deux constantes que l'on verra et que l'on retrouvera par la suite pour ces courbes-là. Alors, sur cette courbe, alors, attendez que je ne me trompe pas, voilà. Donc cette courbe de Gauss, elle a des petites cousines ou des petites sœurs, je ne sais pas comment on peut dire ça, donc qui sont les courbes d'équation y égale 1 sur sigma racine de 2pi, donc on retrouve le 2pi de tout à l'heure, exponentielle de moins 1,5 de x moins mu sur sigma, et tout ça au carré. Donc là encore, des formules compliquées, avec deux nombres qui viennent en plus, qui sont mu et sigma, et qui correspondent aux valeurs 0 et 1 pour la courbe précédente. Alors donc ça, c'est la forme la plus générale d'équation de ce type de courbe. Alors la formule est encore plus compliquée, mais la forme correspondante est semblable. Donc on se retrouve avec des courbes de ce type-là. Alors là, celle qui donne, que l'on obtient plutôt, lorsque mu, par exemple, ici vaut 2, et que sigma vaut 1,7. Donc on obtient une courbe comme ça. Sinon, si on prend d'autres valeurs de mu et sigma, par exemple ici mu égale 5, sigma égale 0,6, on obtient ce type de courbe. Alors elles ont des propriétés communes. On retrouve encore un axe de symétrie, et l'axe de symétrie est la droite d'équation x égale mu, donc ici x égale 5, et deux points d'inflexion, là encore, qui correspondent à un écart de sigma à partir de la valeur de mu. Donc ici, on a le point d'abscisse mu moins sigma qui est aussi un point d'inflexion, et ici, mu plus sigma qui est aussi un point d'inflexion. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique à ces courbes-là pour tout ça. Hop là, attendez, hop, j'ai oublié un bout. Voilà. Alors si on regarde comment elles se comportent, voilà. Alors, donc ici c'est bon. Voilà. Donc ici, j'ai un logiciel qui permet de tracer différentes courbes de Gauss en faisant varier ou les valeurs de mu. Donc à ce moment-là, on voit ce qui se passe. Je vous ai dit que l'axe de symétrie, c'était la droite d'équation x égale mu, donc une courbe qui se décale. Donc l'influence de mu, c'est la position de la courbe. Et la valeur de sigma, par contre, c'est son étalement. Donc la façon dont elle se creuse ou pas. Et quelque chose que je n'ai pas dit non plus pour tout ça, c'est que l'air sous la courbe, donc essentiellement ce qui se situe ici, puisque là c'est quasiment confondu, même si ça ne l'est pas tout à fait, mais c'est quasiment confondu avec l'axe des abscisses, c'est 1. Donc on se retrouve avec une courbe comme ça, on verra pourquoi tout à l'heure et quelle utilisation on peut en faire. Alors si on regarde donc ça, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette courbe-là qui est différente de ce qui se passait, si je reviens à celle du départ, qui était pour mu égale 0, pardon. Si j'y arrive, voilà, et sigma égale 1, voilà. Donc ça, c'est la première que je vous ai présentée. Et si je compare avec donc d'autres, eh bien, on peut se ramener de celle-ci à la précédente. Donc si je regarde, donc là, c'est celle que j'avais au départ, celle que je vais transformer plutôt. Ça, c'est celle que j'avais au départ. Et moyennant, donc au départ, une translation, puis un tassement. Alors un tassement ou un agrandissement, tout dépend de la valeur de mu, en fait, elle coïncide. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à partir de la première que je vous ai présentée, donc celle-ci, eh bien, on peut atteindre toutes les autres. Alors ça sera quelque chose aussi de particulier. En fait, il suffit d'en étudier une seule pour avoir une vision globale de toutes les autres courbes. Si je changeais, attendez, je vais le remettre au départ, si je changeais et que j'en prenne une comme ça, par exemple, bon, là encore, je translate, et en la relevant, elle s'adapte au reste. Vous avez des questions? Non? Dites-le, c'est bon? Oui. Voilà. Donc là, ça permet de voir comment elle se transforme de l'une en l'autre. Alors, la chose aussi, c'est que le critère de dispersion, ici, c'est quelque chose qui va nous aider à travailler par la suite. Voilà, donc ça, c'est bon. Voilà. C'est bon, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, on parlait de la transformation géométrique. Il y a deux affinités.
Voilà, il y a deux transformations de tassement, mais en fait, c'est par des transformations simples, on passe de l'une à l'autre. Et la connaissance de l'une impose la connaissance ou donne des renseignements pour toutes les autres. Voilà. Alors, donc ça, maintenant qu'on sait à peu près à quoi elle ressemble, on va regarder d'où elle vient. Alors, première chose pour le point de départ historique. Donc, au XVIIIe siècle, il y a eu tout un travail de fait sur les probabilités hein, et en particulier les probabilités liées au jeu. Il y avait une grande vague de jeux de hasard, hein, en particulier avec des dés, qui ont donné lieu à beaucoup de recherches mathématiques sur les stratégies de gagnantes ou de mieux gagnantes de façon de jouer. Et puis ensuite, donc là, c'était sur des jeux de dés, donc des modélisations relativement simples du hasard. Mais après, se sont posées des questions plus compliquées relatives à des situations où il n'y avait plus forcément des raisons de symétrie qui permettaient de trouver a priori des probabilités, puisque bon, quand on jette un dé bien équilibré ou un dé idéal, il a 6 faces, et normalement, les faces ont la même probabilité d'être obtenues, et on travaille avec ce modèle-là, bon, sauf à supposer que le dé est truqué, mais si on a un dé ordinaire, on va supposer que toutes les faces ont la même probabilité d'être obtenues. Je n'ai pas besoin de faire une grosse étude pour dire ça. Même chose avec une pièce de monnaie, si la pièce est relativement symétrique, pile et face ont à peu près la même chance ou la même probabilité d'être obtenues. Mais il y a des situations où on ne peut pas dire a priori qu'est-ce qui va se passer sans une étude particulière. Et donc le problème qui s'est posé par la suite, ça a été de déterminer c'est de façon expérimentale ou en tout cas empirique ces probabilités qu'on ne pouvait pas obtenir. Alors ce qui s'est passé quand même et qui a donné la base de tout ça, c'est que lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, eh bien la fréquence de réalisation d'un résultat donné est approchée ou approche plutôt la probabilité de sortie. Et donc, si on connaît a priori la probabilité, donc on va voir que la fréquence d'observation se rapproche de la probabilité qu'on pense. Et à l'envers, on s'est dit, si on ne connaît pas la probabilité, finalement, en répétant un grand nombre de fois l'expérience, je vais pouvoir approcher cette probabilité que je ne connais pas. Et c'est ça qui a été la base des travaux et qui a donné lieu par la suite, dans un contexte particulier, à la naissance de la courbe de Gauss. Alors, donc, ça a été dans le cadre des expériences répétées ou des répétitions d'expériences. Donc, à la suite de travaux de Pascal, de Fermat, de Huygens, de Bernoulli, dans le milieu du XVIIe siècle, eh bien, on va essayer de mieux cerner cette notion de probabilité. Donc là, il y a eu un travail de mise en place des probabilités au XVIIe et ensuite un travail sur les calculs ou l'établissement de ces notions-là. Et la question, ça a été donc comment déterminer cette probabilité ou cette notion de probabilité lorsqu'aucun moyen ne permet de le faire a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de symétrie, il n'y a rien qui permet d'avoir des indications précises par rapport à tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de profs de maths dans la salle, mais en tout cas, c'est l'aspect... l'approche fréquentiste de la notion de probabilité, donc qui figure dans les programmes aussi bien de troisième que de seconde, au moins dans l'abord des probabilités. Alors ensuite, donc le cas particulier auquel on va s'intéresser, ça va être de déterminer la valeur d'une probabilité de façon objective. Dans le cas où on s'intéresse à la réalisation ou non d'un résultat d'une expérience aléatoire. Alors, donc là, parmi tous les résultats possibles, je m'intéresse à un résultat. Alors ça peut être par exemple... je le dirai après. Voilà, donc l'idée est que l'on peut approcher la valeur de cette probabilité grâce à la répétition de l'expérience, et ce, d'autant mieux que le nombre de répétitions est grand. Alors le grand, j'aurais dû le mettre en italique, parce que qu'est-ce que ça veut dire grand? À partir de quel moment on va considérer que c'est suffisamment grand pour donner une approche suffisante? Et puis donc, il y avait comme une espèce de convergence qui était à démontrer, et puis ensuite, une fois qu'on a prouvé la convergence, eh bien, quelle est la qualité de cette convergence? Est-ce qu'elle est rapide ou non? Et à partir de quel moment on peut s'arrêter? Alors ça, ce sont des choses qui sont encore, qui sont utilisées, en particulier dans tout ce qui est le contrôle de qualité ou les sondages aussi, enfin, tous ces endroits où la statistique vient alimenter de l'estimation ou des tests, eh bien, on va avoir à utiliser dans un premier temps cette convergence. Et puis, une convergence, c'est quand on a un des paramètres qui tend vers, alors ici en l'occurrence, ça sera vers l'infini. L'infini, malheureusement, dans notre monde, il est pas on ne peut pas l'atteindre. Donc, on va s'arrêter avant, sinon on y sera encore. Et puis, est-ce qu'on est allé suffisamment loin ou pas? Et tout le problème est là. Alors ça, c'est des choses aussi qui sont un peu subtiles et qui sont traitées de façon un peu récurrente et qui repose sur l'expérience et la connaissance des phénomènes qu'on cherche à modéliser. Alors, on va détailler un peu tout ça. Donc, je dis que je m'intéressais à la réalisation ou non d'un des résultats. Alors, par exemple, pour une pièce de monnaie, eh bien, je vais regarder si j'obtiens face ou non. Bon, le ou non sera pile, bien sûr, mais je m'intéresserai uniquement aux résultats égaux à face. Donc, ça, c'est cet exemple-là que je vais détailler par la suite. Mais ça peut être aussi, si je jette un dé, ben, je vais regarder si j'obtiens 6 ou non. Donc là, le non, ça sera 1, 2, 3, 4 ou 5. Mais j'aurais pu m'intéresser aussi aux 4 ou aux 3 ou n'importe. Ça peut être aussi, dans le cas d'un modèle d'urne, eh bien, je tire une boule au hasard dans une urne qui contient entre autres des boules rouges. Et bon, là, en l'occurrence, dans le graphique que j'ai mis, il y a des blanches, il y a des noirs, des bleus. Mais je m'intéresse à obtenir la couleur rouge ou pas. Et ça peut être aussi avec des systèmes de roues de loterie. Et on va s'intéresser, ben, par exemple, à obtenir une couleur verte et voir un peu le rapport que ça peut avoir avec le reste. Hein, donc ça peut être différentes situations. Bon, il y en a bien d'autres, hein, mais ce sont des cas particuliers où on va se retrouver comme ça. Voilà. Alors, si on travaille avec le jeu de pile ou face, donc si je joue une fois, eh bien, je peux soit obtenir face que je vais coder avec un F ou non, et que je vais noter avec F surmonté d'une barre. Bon, dans ces cas-là, si la pièce est bien équilibrée, eh bien, obtenir face ou non, ça correspond à la même probabilité qui sera 1/2. Donc ça, c'est si je fais l'expérience une seule fois. Si je la fais deux fois, alors pardon, donc ça c'est bon. Si je la fais deux fois, eh bien à ce moment-là, je vais avoir une construction que je peux schématiser par un arbre. Hein, il y a plusieurs manières de formaliser les choses, mais en particulier les arbres s'y prêtent bien. Lors de la première réalisation, je peux obtenir face ou non, avec une probabilité de 1/2 dans les deux cas. Et ensuite, quand je réalise une deuxième fois l'expérience, eh bien, là encore, je vais pouvoir obtenir face ou non avec encore la même probabilité. Et même chose, si je n'ai pas obtenu face, je peux obtenir ça. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une situation d'équiprobabilité pour les... Une situation d'équiprobabilité, puisque bon, vu que tout se passe de la même façon, il n'y a aucune raison que j'obtienne plus souvent face-face que face-pas-face ou face ou l'autre. Et donc à ce moment-là, on va être conduit à attribuer un cas pour tout. Ça ne serait pas le cas si je travaillais avec un dé et que je m'intéresse au 6, par exemple. Puisque le 6, il a moins de chances de sortir que les 5 autres tous groupés. Il a autant de chances de sortir que chaque numéro pris un par un, si le dé est bien fait. Mais par contre, au niveau d'une situation comme celle-là, ben, je serai obligée d'en tenir compte pour schématiser les choses. Donc là, je me suis passée dans un cas relativement simple pour éviter tous ces ennuis liés à la non-équiprobabilité pour laquelle on s'y ramène. On se ramène à l'équiprobabilité en développant davantage et en regardant ce qui se passe. Bon, ici, tout va bien. Donc finalement, si je m'intéresse aux 4 résultats possibles pour les deux lancers, bien je vois qu'ici j'ai 2 fois face, ici une fois, et ici 0 fois. Donc ce qui donne finalement un bilan des choses comme probabilité, ben pour 0 fois, c'est celui-ci, donc on retrouve le 1 quart. Une fois, ben je retrouve ces deux-là, donc 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. Et puis 2 fois, ben c'est ce cas particulier-là. Et donc je me retrouve avec une situation comme celle-ci. Et on peut la représenter avec donc un graphique qui va placer des... Alors ici, j'ai mis des rectangles, mais on peut placer des bâtons, simplement. Hein. Ce qui va jouer, c'est surtout la hauteur. Donc avec les trois valeurs possibles correspondant au nombre de faces que j'ai obtenues, donc 0, 1 ou 2, et puis des hauteurs proportionnelles à un quart, un demi et un quart. Hein, le rectangle du milieu étant deux fois plus haut que les deux autres. Alors ça, donc j'ai fait ça pour 2. On peut continuer à faire ça pour 3. Donc même chose et même processus de construction. Hein, premier jet, deuxième lancé, et puis le troisième. Donc là, on va se retrouver finalement avec 8 suites de résultats possibles, hein, donc qui vont être donc soit que des faces, deux faces suivies d'un pile, une face suivie d'un pile suivie d'un face. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais on a les 8 résultats que l'on peut obtenir, et chacun avec la même probabilité, donc qui sera d'un huitième. Alors, si maintenant on fait le bilan du nombre de faces obtenues dans chacun des cas, bon, ici on constate qu'il y en a 3, ici 2, ici à nouveau 2, ici 1, etc. Et donc en faisant le bilan, si je regarde 0 fois face, ben c'est ici uniquement, donc je me retrouve avec un huitième. Une fois face, il y a celui-ci, celui-ci, et puis il doit y avoir celui-là, donc ça en fait 3. Deux fois, ben, il y a celui-ci, celui-ci, puis il y en aura un autre qui traîne par là, voilà, celui-là, etc. Donc on se retrouve avec ça. Et si on fait le même graphique que précédemment, bien, lorsque je jette 3 fois la pièce, je me retrouve avec 4 valeurs possibles du nombre de faces, soit 0, 1, 2 ou 3. Et un graphique qui correspond à ça. Alors, ça c'est pour montrer ce qui se passe, mais après je peux faire la même chose avec 10 fois. Bon, alors je n'ai pas mis tous les détails, hein, parce que ça fait 1024 possibilités. Hein, mon arbre, chaque fois, se double. Hein, donc là, on en était à 8 pour 3 fois. Le coup d'après, si je faisais 4 fois, donc ça fait 8 fois 2, 16 possibilités. Puis 16 fois 2, ça fait 32. J'en suis à 5, là. 32, 64, 128, 256 et 1024 pour 10. Et 512. Oui, merci, j'en oublie en route. Voilà. Et si je traçais le graphique de la distribution correspondante, on aurait ça. Alors ça, on peut le faire nous maintenant. Enfin, là, j'ai eu facile à le faire. On a des outils informatiques qui nous font tout ça. Mais à l'époque de Bernoulli et ses compères, bah, ils n'avaient pas d'ordinateur. Hein. Ils étaient obligés de faire les calculs à la main. Et donc là, sur des petites valeurs comme ça, ça va relativement bien calculer. Mais dès qu'on atteint... Par exemple, ici, j'ai fait ce qui se passait pour 50 lancés. Ça donne des calculs qui sont énormes. Hein, donc là, c'est le logiciel qui a pris tout en charge. Hein, et même maintenant, on pourrait le calculer avec des calculatrices et tout. On a des outils qui nous permettent de le faire. Mais ce qui s'est passé pour l'époque de Bernoulli et ses compères, bah, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de calculer tout ça. Et ils se retrouvaient coincés par des nombres qui prennent des valeurs gigantesques. Alors, ces valeurs, elles sont, comment, il y a des quotients dans les calculs de probabilité, ça donne des nombres qui sont raisonnables au niveau du résultat final, mais dans leur élaboration et dans les calculs, ça donnait des calculs énormes. Et donc, leur problème, ça a été d'arriver à remplacer ces calculs, qui sont des calculs importants, par des calculs plus simples, et à essayer d'approcher, ou au moins de dominer tout ça, de façon à pouvoir... avoir une idée. Alors, dans un premier temps, ils ont travaillé surtout sur les valeurs centrales, puisque c'était les plus grandes. Et puis après, il y a eu tout un travail aussi fait sur la somme de plusieurs valeurs. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à savoir quelle est la probabilité que le résultat, ou plutôt ici, le nombre de faces, puisque je travaille avec ça, soit compris entre telle et telle valeur. Et donc, il y a eu un travail de fait sur des sommes de valeurs possibles. Hein, dans les documents que je vous mettrai en biblio après, si ça vous intéresse, il y en a certains qui sont en ligne sur Internet. Vous pourrez trouver des indications sur la façon dont ils ont procédé pour y arriver. Voilà, et ça, c'est pour 100. Voilà, hein, donc pour 100, on obtient 100 bâtons, hein, 101 bâtons même, hein, entre 0 et 100, et avec des hauteurs comme celle-là. Alors, ils se sont intéressés, bien sûr, surtout... aux valeurs qui sont centrées sur la moitié, là, sur 50, Ben parce que les valeurs extrêmes, elles sont très faibles. Alors ça, c'était des choses dont ils s'étaient aperçus, hein, donc ils avaient quantifié. Et bon, ben, le plus significatif, c'était de travailler pour des nombres de faces qui se situaient par ici, hein, donc autour de 50 dans un premier temps. Voilà, alors si on regarde ce qu'on a obtenu, donc en fait, ces distributions de probabilités sont ce que l'on appelle des distributions binomiales. Hein, donc je vais vous dire après pourquoi elles s'appellent comme ça. Et elles ont besoin, pour être définies, de deux paramètres. Donc les paramètres, ce sont... Le premier, c'est le nombre de répétitions de l'expérience. Donc là, j'avais mis un 2 ou 10, j'aurais dû même mettre 100. Hein. Donc un 2, 10, 50 ou 100. Et ensuite... Le deuxième paramètre, c'est la probabilité d'obtenir le résultat lors d'une réalisation de l'expérience. Donc là, si je jette la pièce une fois et que je m'intéresse aux faces, eh bien, face, je vais l'obtenir avec une probabilité de 1,5 ou 0,5 hein, au départ. Voilà, donc elles ont besoin à chaque fois de deux paramètres. Alors ça, on dit ça maintenant avec le langage moderne, mais à l'époque, c'était beaucoup plus diffus et ça a dû mûrir. Alors, d'un point de vue représentation, donc il y a eu un travail donc, de modélisation. Alors, il y a ce qui s'appelle la planche de Galton. Alors là, donc, c'est une image un peu ancienne de ce qui se passe. Comment ça se fait ? Eh bien, on a un réservoir de billes ici, et ces billes, elles tombent sur une planche où des clous sont plantés. Et en fait, on modélise les choses en disant, ben, finalement, quand une bille tombe sur un clou, eh bien, ou elle va à droite ou elle va à gauche. Et si l'implantation est symétrique, il n'y a pas plus de raison qu'elle tombe plus d'un côté que de l'autre. Et on se retrouve finalement à chaque étage de la planche avec une répétition de l'expérience en disant, ben voilà, la bille tombe sur un clou. Elle va à droite ou elle va à gauche. Et en bas, il y a un réceptacle des billes. Et suivant ce qui s'est passé, eh bien, elles vont tomber ici. Celles qui sont là vont correspondre à des endroits où la bille est systématiquement tombée sur la gauche du clou. Celles qui sont par ici vont correspondre à des billes qui sont tombées systématiquement à droite du clou. Et puis là, ben, au milieu, c'est un coup à droite, un coup à gauche, bon, de façon plus dispersé. Et on se retrouve donc avec une distribution où on reconnaît les graphiques que je vous ai présentés. Alors ça, c'est un dispositif d'origine, si vous voulez. Puis j'ai mis celui-là aussi, qui correspond à un travail réalisé par des élèves d'un lycée professionnel de votre région, où ils ont fait un système de cheminement avec un circuit, hein. Et donc, à chaque nœud, ben, où la bille va à droite, ou elle va à gauche. Et donc, finalement, on se retrouve avec le même principe, ici, des réservoirs qui vont les recueillir, et on retrouve encore la même forme de distribution. Oui. Voilà. Je vous en présenterai une autre tout à l'heure, celle qui est au Palais de la Découverte. Je ne l'ai pas mise là, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, et donc c'est vrai que s'il y en a une là, j'aurais pu mettre celle aussi qui est ici. Donc il y en a beaucoup de travaux qui sont faits à partir de là, hein, et qui permettent d'imager tout ça. Alors j'ai peut-être observé de façon bien nette la chronologie historique, hein, puisque Galton, il était beaucoup plus ancien que les mathématiciens que j'ai cités jusque-là. Plus récent, oui, plus récent. Plus récent, et bon, mais ça ne fait rien. Ça prend sa place là dans la présentation des choses. Voilà, alors, donc ce nom de binomial, maintenant, de quoi il vient ? Eh bien, il vient du fait que les différentes probabilités que l'on obtient, hein, donc là, un demi pour le premier, puis un quart, un demi, un quart pour le deuxième lancé, puis après il y avait un huitième, trois huitièmes, trois huitièmes, un huitième, etc., eh bien, suivant les valeurs de n, elles correspondent au développement de p plus 1 moins p puissance n. Alors ici, notre p, c'était 1,5. Donc ça serait les probabilités qui correspondent au développement de 1,5 plus 1,5 puissance n. Hein, donc là, on va se retrouver avec... Bon, là, si je le fais pour 3, je vais avoir 1 demi plus 1 demi, fois 1 demi plus 1 demi, fois 1 demi plus 1 demi. Alors, si vous avez des souvenirs un peu de 4e ou de 5e, eh bien, on va calculer ce développement, si on le laisse en l'état, en faisant tous les produits possibles avec un facteur de la première parenthèse, enfin un terme, pardon, de la première parenthèse, multiplié par un terme de la seconde, multiplié par un terme de la troisième. Et ça, de toutes les façons possibles, et on va retrouver tout ça. Alors, cette façon de procéder, hein, de développer tout ça, ça correspond à ce qu'on appelle le binôme de Newton en mathématiques. Un binôme parce qu'il y a deux termes. Et donc, le binôme de là est devenu binomial pour la distribution. Hein, c'est d'un point de vue identification, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, si on reprend donc les différentes... attendez, il faudrait que... Bon, ça fait rien. Voilà. Alors, si on revient à notre problème, donc ce qui s'est posé comme souci, c'était de calculer les grandes valeurs des probabilités, alors grandes, d'obtenir les probabilités à partir de calculs importants. Et dans ces calculs importants, en particulier, intervient un nombre qui se note avec un point d'exclamation, comme ça, qui est une factorielle. Alors, la factorielle, c'est quelque chose de facile. Hein, comme ça, le factoriel de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. La factorielle de 15, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, jusqu'au 15, comme ça. Et quand on va calculer des probabilités, par exemple, pour n égale 100, eh bien, dans la formule va intervenir la factorielle de 100. Donc 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 100. Hein, alors, donc, on a maintenant des outils qui nous permettent de le faire relativement facilement, mais à l'époque, ils n'avaient rien de tout ça. Et donc, un des travaux engagés, ça a été de trouver un équivalent de la factorielle d'un entier lorsque n est relativement grand. Et donc la formule qui a été donnée par Abraham de Moivre et James Stirling, alors de Moivre il a un peu disparu dans la bataille, hein, et c'est resté uniquement la formule de Stirling, hein, qui est donc celle-ci, hein, donc racine de 2π, le π de la courbe de Gauss arrive ici, multiplié par n sur e, le arrive aussi, tout ça puissance n. Et ça donnait donc des calculs plus raisonnables et plus faisables. Voilà, et donc on a pu approcher les probabilités que l'on cherchait et faire une modélisation des choses. Voilà. Et alors, donc, ces travaux donc, de Moivre et de Laplace par la suite ont conduit donc, à un théorème qui porte leur nom maintenant et qui est un cas particulier d'un autre théorème qu'on explicitera par la suite et qui va expliquer pourquoi cette loi normale, elle intervient partout. Alors, avant de continuer avec tout ça, je vais vous présenter trois animations. Donc, alors, attendez. Je vais revenir là. Voilà, alors encore un coup. Voilà, comme ça j'aurai les trois et je vais pouvoir vous les commenter. Voilà, alors ici on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, et donc je vous montre ça parce que c'est comme ça maintenant que dans les programmes de lycée sont abordées les lois normales. Hein, donc depuis cette année, il y a des modifications de programmes dans les classes de terminale et on demande aux enseignants donc de partir d'une démarche qui s'apparente à la démarche historique que je viens de vous présenter. Alors, première chose, si on travaille avec les lois binomiales telles que je viens de vous le montrer, eh bien, si n augmente, hein, on a un décalage comme ça de tout ça. Alors, si on cherche à stabiliser un peu les choses, eh bien, on s'aperçoit que quand n augmente, ma courbe se déplace. Alors, attendez, il y a un problème là, quand même. Alors, voilà. C'est lié à l'écran. Voilà. Donc là, elle se déplace, et en fait, on s'aperçoit que le centre, ici, c'est le produit de n par p, chaque fois. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai n par p, ça fait en gros 85. Hein, elle est centrée à peu près sur 85. Hein, si je mets une valeur de p qui soit 0,3. Voilà, je vais mettre quelque chose d'entier là. Voilà. Hein, donc là, elle doit être centrée sur 60. Et donc, pour stabiliser les choses, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un centrage de la loi normale, de la loi binomiale correspondante. Donc voilà, si je centre, je vais obtenir ça. Alors attendez, je vais essayer de montrer l'axe complet. Voilà, c'est bon. Voilà, hein, donc là j'ai ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'augmente n, vous voyez que ma courbe, elle ne bouge plus, puisque je l'ai centrée. Hein, donc j'ai diminué toutes les valeurs observées du produit np, hein, puisque c'était ma valeur centrale qui gigotait bien sûr en fonction de n. Si je retranche cette valeur, ben, je fixe ma courbe ici à 0, hein, puisque la valeur centrale, c'était np. Si j'enlève np partout, maintenant, ma valeur centrale, ça sera np moins np, donc 0. Hein, donc, je me retrouve avec ça. Et là, finalement, alors maintenant, ce qui bouge, c'est l'étalement, hein, puisque l'étalement, il est lié à tout ça. Hein, donc, c'est énorme, un peu sujet à tout ça. Hein, plus n augmente, plus j'ai de valeurs possibles. Hein, vous voyez, là, j'ai pris n égale 219, ce qui veut dire que j'ai 220 valeurs possibles. Si j'en suis avec mon nombre de faces de tout à l'heure, alors peut-être pas des faces, bon, quoique j'ai pris 0,48, hein, mais si je prends p égale 0,5, voilà, là, je suis tout à fait dans le cadre de répéter 219 fois le lancer de ma pièce. Donc, du coup, j'ai 220 valeurs possibles du nombre de faces, hein, de 0 jusqu'à 219. Et ben, bien sûr, quand n a grandi, eh bien, j'ai plus de valeurs possibles. Et bon, ben là, ça s'étalerait de, en gros, avec des probabilités presque pas nulles, hein, de 26 jusqu'à. Ben, de moins 26 jusqu'à 26, en gros, puisque c'est symétrique. Voilà. Alors, et le but après, c'est d'essayer de réduire cette dispersion. Et une des façons de réduire la dispersion, ça va être de diviser par une dispersion moyenne de tout ça. Et la dispersion moyenne, ben, on avait vu que ça correspondait au second paramètre de la loi normale. Et ça, c'est quelque chose qui va apparaître par la suite. Hein, donc ici, j'ai centré et réduit pour diminuer tout ça. Et là, lorsqu'on augmente les valeurs de n, eh bien, on s'aperçoit que finalement, il y a une grande stabilité qui s'installe et on voit apparaître une forme de courbe ici qui va servir d'approximation par la suite. Hein, et donc, si je la fais apparaître, eh bien, la loi normale, hein, ou les courbes de Gauss, apparaissent à ce moment-là. Hein, et donc, ça va être une façon d'approcher les choses. Alors ça va être la deuxième partie d'un point de vue historique, avec un travail sur les modélisations des écarts, et c'est là qu'elle va prendre tout son sens et pouvoir être mise en place. Hein, donc là, oui. Voilà. Mais si tu veux, moi je crois qu'il y a avant, hein, donc la normalisation, il faut voir, faire un travail sur la loi binomiale en amont pour ben, sentir comment on va mesurer l'étalement de la loi binomiale. Et cet étalement, bon, ben, il passe par l'écart type, hein, puisque c'est le nom que ça porte. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu délicat. Hein, mais enfin, moi, il me semble qu'en travaillant sur la stabilisation des choses, et là, on voit que plus rien ne bouge, bon, sauf le pas des rectangles qu'on a, mais il y a une plus grande stabilité dans tout ça. Et on pourra en discuter après si. Hein. Comment ? Ben, c'est-à-dire qu'on ne présentait pas les choses comme ça. Non, bon, déjà, les lois normales n'étaient pas au programme de terminale, hein, donc ce sont des choses qui sont introduites dans les programmes. Et il n'y avait pas cet aspect d'approche par les théorèmes historiques. Hein, puisque on demande maintenant de l'introduire par l'intermédiaire de ce théorème-là. Voilà. Alors, d'un point de vue maintenant plus théorique, alors là, je vais faire un peu de maths quand même, hein, même si ça va être que d'une approximation. Donc, dans le cadre plus général, bien, si on a une suite de variables aléatoires qui a une distribution binomiale pour chacune de paramètres n, donc qui va dépendre de la variable, hein, donc xn qui sera l'indice, et pour le même p, second paramètre, qui lui va être fixé. Eh bien, quand n va tendre vers l'infini, on va se retrouver avec une modélisation qui pourra se faire par l'intermédiaire de la courbe de Gauss ici, et donc on va pouvoir dire que... Alors, attendez, ça j'aurais dû le mettre après, tant pis. Voilà, hein, donc là, on voit apparaître, hein, donc en filigrane, cette courbe de Gauss qui va se dessiner et qui va permettre de modéliser les choses. Et d'un point de vue pratique, alors ça, c'est plus dans l'état actuel des choses. Alors, dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire dans l'état antérieur des choses. Parce que maintenant, avec les outils de calcul que l'on a, bah finalement, quand on veut calculer des probabilités avec une loi binomiale, avec l'outil que je vous ai présenté là, qui m'a servi à construire les courbes, ben, il suffit que je dise, voilà, je veux travailler avec une loi binomiale de paramètres, trucs et machin, calcule-moi la probabilité que la variable soit entre ça et ça, et le logiciel, il va me donner le résultat. Alors ça, avant qu'on ait tout ça, bien, on transformait des calculs de somme, hein, parce que là, si je suis ici, par exemple, et que je veux m'intéresser à la probabilité que le résultat soit compris entre moins 2 et moins 1, eh bien, dans ce cas-là, j'aurais ajouté cette probabilité là, enfin, la hauteur de ce bâton, la hauteur de celui-ci. Donc, j'aurais ajouté 2, alors là, je ne sais plus combien j'en ai, hein, mais 2, 4, 6, 8, 10, 12 probabilités différentes. Alors, chacune avec ses factoriels et compagnie, hein, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, quand on n'avait pas des ordinateurs qui faisaient le calcul à notre place, eh bien, on remplaçait la somme des hauteurs de bâton par un calcul d'air. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et on avait des tables qui, enfin, on a encore des tables qui permettent de faire ça. Mais ça, je pense que ce sont des choses qui vont être appelées à disparaître parce que les outils de calcul nous permettent de travailler au moins dans ce contexte-là directement avec les lois d'origine, quoi. Hein, et par contre, je vais vous montrer après des situations où, pour le moment, on ne peut pas faire l'économie de travailler par l'intermédiaire des lois normales. Alors, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la planche de Galdon qui se trouvait à la Villette. La voici. Alors, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle fait apparaître la courbe de Gauss correspondante, hein, donc qui va, elle, approcher la distribution. Alors là, elle est en cours de remplissage, hein, et donc elle y est en plus. Alors, je ne sais pas si la vôtre, ici, elle fait apparaître la courbe de Gauss ou pas. Non. Voilà. Ah ben, il faut un certain nombre de niveaux, oui. Bon, ils l'ont rajouté. Voilà. Alors, dans ce cas-là, eh bien, la courbe de Gauss, elle apparaît comme une densité de probabilité. Hein, c'est-à-dire qu'elle va servir à montrer comment se concentre la probabilité sur tel ou tel intervalle. De la même façon qu'on a une densité de population, hein, elle va quantifier comment la probabilité se concentre sur chaque partie ou chaque sous-ensemble de réel. Voilà. Alors, un exemple ici, là, je me suis intéressée à ce qui se passait entre les deux nombres A et B. Donc là, si je suis avec les lois binomiales, je serai obligée de travailler avec les sommes des hauteurs de bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et si je remplace par la loi normale, eh bien, je vais pouvoir calculer uniquement l'aire de la partie bleue qui est ici. Et alors, donc, on a l'expression du théorème, qui est celle-ci. Eh bien, si j'ai ici une loi binomiale, que je sente donc en enlevant np, que je réduis en divisant par ce qui va mesurer sa dispersion, eh bien, la probabilité que la nouvelle variable obtenue soit comprise entre A et B converge, lorsque n tend vers l'infini, vers l'intégrale, donc vers l'air, entre A et B, de la fonction représentée en rouge. Donc, en fait, on va avoir cette R-là qui va servir de limite à cette probabilité-là. Voilà. Donc, ça, c'est plus l'expression du théorème d'un point de vue mathématique. Voilà. Et maintenant, donc, résultat plus général, ben, toute variable aléatoire qui admet comme densité la fonction représentée en rouge sera dite distribuée selon la loi normale, centrée, réduite. Alors, centrée, réduite, je l'ai expliqué un petit peu. Hein, centrée, c'est parce que ben, tout est ramené avec une moyenne de 0. Réduite, c'est parce que je divise par le coefficient qui mesure sa dispersion. Alors maintenant, pourquoi normal ? Eh bien, ça a été un épisode, plutôt une histoire en plusieurs épisodes. Bon, d'abord, en 1899, Galton, donc toujours le même, a commencé à qualifier de normal la courbe, et avec une connotation de normal qui était plutôt au sens de norme, hein, de norme, donc de ce qui doit être observé, au sens de modèle aussi. Hein, et ce nom de loi normale donc, a été... imposé ou repris par Karl Pearson, qui était un autre mathématicien de cette époque-là. Et alors, par la suite, donc, il a reconnu qu'en 1920, hein, donc beaucoup plus tard, ben, que finalement, ça n'avait pas été bien choisi, puisque finalement, l'évolution du mot normal a fait en sorte que ben, ça devenait le contraire d'anormal. Et finalement, il a, bon, c'est un vocabulaire qui a été regretté par son auteur, finalement. Hein, parce qu'il, bon, il a dit ça, il a dit ça, le désavantage de conduire les gens à croire que toutes les autres distributions de fréquences sont en un sens ou un autre anormales. Et donc, mais c'est quand même ce qui est resté dans le vocabulaire actuel, complètement. Voilà. Alors bon, et alors qu'à l'origine, hein, donc ça a été longtemps la deuxième loi de Laplace. On verra tout à l'heure la première, et ça a été aussi la loi de Laplace-Gauss, hein, ou loi de Gauss, tout court. Hein, et c'est pour ça que ça s'appelle la courbe de Gauss à cause de cette appellation anglo-saxonne. Voilà. Alors donc ce résultat précédent, donc qui était le théorème de Moivre-Laplace, c'est un cas particulier du théorème central limite, donc qui dit dans sa forme la plus générale que sous certaines conditions, eh bien, la suite des moyennes centrées réduites, hein, toujours pareil, hein, donc j'ai des moyennes, je les centre en enlevant leur valeur moyenne à elles, je divise par ce qui mesure leur étalement, et donc dans ces cas-là, eh bien, sous certaines conditions, cette suite des moyennes converge vers la loi normale centrée réduite. Et alors, donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque c'est cette raison-là qui fait qu'on la rencontre un peu partout, parce que dès qu'un phénomène est la superposition d'un grand nombre de causes aléatoires indépendantes, eh bien, les résultats vont se distribuer suivant une loi gaussienne. Hein, alors, par exemple, si vous avez un usinage d'une pièce, par exemple, et que vous voulez mesurer le diamètre, eh bien, l'usinage, ça va dépendre de la température. Hein, s'il fait chaud... Le métal que vous allez usiner, il est plus facilement usinable que s'il fait froid. Alors, bien sûr, ce n'est pas des variations énormes, mais quand même. Hein, si ça va dépendre de la qualité de la matière première, donc là aussi, hein, bonne qualité ou mauvaise qualité, ça va faire ou non grandir le diamètre. Ça va dépendre de l'état de l'outil qui usine. Hein, s'il est un peu émoussé, ben, ça usinera moins que s'il est bien aiguisé. Hein, vous avez comme ça tout un tas de facteurs qui vont jouer sur le diamètre et qui vont se conjuguer. Et donc, dans les cas les plus favorables ou les moins favorables, eh bien, on va se retrouver avec des diamètres qui vont s'étaler suivant alors, un intervalle plus ou moins grand suivant les qualités des outils et les conditions que l'on impose pour la fabrication, mais des diamètres qui vont se distribuer suivant une courbe en cloche. Alors, ça peut être ça dans l'industrie, ça peut être ça pour des tailles de plantes, par exemple, hein, ou des productions, hein, qui vont dépendre de l'arrosage, de l'ensoleillement, de la température, de la qualité des graines, et j'en passe. Hein, donc, tout ça, ça va se cumuler. Certains facteurs auront tendance à faire évoluer le phénomène dans un sens, d'autres facteurs dans l'autre, et le tout cumulé conduira à l'apparition d'une loi normale. Hein, donc, c'est pour ça qu'elle revient partout et que beaucoup de phénomènes sont modélisés par l'intermédiaire d'une loi normale. Voilà. Hein, donc là, alors, chose remarquable aussi concernant ce théorème, eh bien, ça ne dépend pas de la forme de la distribution initiale. Hein, on peut avoir au départ quelque chose de discret, hein, comme le cas des lois binomiales, ce sont des lois discrètes, hein, les valeurs observées ne sont que des entiers. Et donc, on va se retrouver au bout avec une loi continue, puisque la loi normale, elle travaille sur tous les réels. Hein, mais ça peut être aussi, hein, quand on démarre, par exemple, avec une distribution qui n'est pas uniforme, mais une distribution en baignoire, Hein, on peut avoir ça. Mais quand on répète un grand nombre de fois les choses, eh bien, ça va gagner. Alors, bien sûr, moins vite que si au départ, on était déjà avec une distribution normale, mais ça va regagner, ça va redonner une distribution normale au bout du compte. Hein, donc, c'est ça qui est remarquable et qui fait que ça intervient. Alors, je vous présente une animation. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait 500 observations de la moyenne de 100 lois uniformes sur 0,1. C'est-à-dire que j'ai pris sur l'intervalle 0,1, un nombre au hasard. Donc, entre 0 et 1, alors je crois qu'il y a une quinzaine de chiffres après la virgule, hein, c'est avec Excel, donc ça doit être ça. Donc, je prends un nombre au hasard, et je fais ça 100 fois. Hein, donc, je prends un nombre au hasard, plus un nombre au hasard, donc j'ai une somme de 100 nombres, c'est ça. Hein, et je l'ai fait 500 fois. Donc, sur ces 500 résultats, eh bien, j'en ai un certain pourcentage qui va être ici, un certain pourcentage qui va être là, et j'obtiens une distribution, vous voyez, là, en faisant rien, hein, simplement ajouter des nombres au hasard entre 0 et 1. Hein, donc j'en ai certains, et la majorité se trouve autour de 50. Ben parce que ben, entre 0 et 1, si je le fais 100 fois, ben, je vais en gros avoir moitié qui vont être plus petits que 1,5, moitié qui vont être plus grands, en gros. Hein. Et donc la somme, en général, elle va tourner autour de 50. Hein, vous voyez que les intervalles ici, c'est 0,49, 0,5, hein, la majorité se trouve par là. Alors ça, c'est pour 500 simulations. Et si je travaille avec d'autres simulations, vous voyez, ça, c'est 500 nouveaux nombres. Voilà, hein, j'ai toujours une constante, hein, donc avec une forme. Bon, alors, qui n'est pas exactement une loi normale, hein, parce que ben, là, j'ai que 500 observations, ce n'est pas beaucoup. Hein, mais si on en faisait vraiment, vraiment beaucoup, on aurait de plus en plus une forme plus régulière. Et donc là, c'est une simulation de ce qui se passe avec mes histoires de pièces là, de tout à l'heure. Hein. Les diamètres, ou les hauteurs de plantes, ou les rendements, ou autre.
On peut se poser des questions sur la fabrication du hasard dans Excel.
Ah bah, tout à fait. Non, mais ça, voilà, tout à fait. Hein, bon, là, c'est un problème que vous soulevez, un problème d'utilisation. Bon, moi, je ne rentre pas là. Je lui fais confiance. Hein, et donc je me dis, Excel, il me donne de façon aléatoire. Et ce qu'il fait n'est pas si mauvais, il me donne quand même un résultat acceptable. Mais vous avez raison de soulever ça, parce que c'est vrai que si le hasard est mal implanté, on peut faire des choses qui sont pas. De toute façon, les logiciels qui fournissent du hasard, hein, qui donnent des suites aléatoires, ne donnent rien d'aléatoire. Hein, Excel, il a programmé à l'intérieur quelque chose un algorithme, puisque c'est le nom que ça porte, qui fournit une suite de nombres aléatoires. Et si on pouvait l'examiner sur une période suffisamment longue, bien on verrait que ça revient, hein, que c'est une suite périodique et qui n'a rien d'aléatoire. Mais ça répond quand même à des critères qui font en sorte que les nombres au hasard, entre guillemets, qui sont produits, ben, approchent finalement relativement bien, selon certains critères, ce qui se passerait si on avait une urne avec... donc là, ce serait des nombres, s'il y en a 15, donc 10 puissance 15 nombres entre 0 et 1, et puis que je tire au hasard un nombre comme ça, en mélangeant bien à chaque coup, et que je fasse la somme. Hein, si je le fais 100 fois, que je fais la norme, donc là, il faudrait que je le fasse 500 fois 100 fois. Hein, donc 50 000 fois pour avoir une courbe comme ça. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'après, il faut faire confiance au générateur de nombres aléatoires qu'on utilise. Voilà. Hein, donc là, voilà. Donc chaque fois, ça redonne des choses comparables. Voilà. Alors, deuxième partie pour voir ce qu'on obtient à partir de là. Donc le deuxième temps historique qui a travaillé sur l'aboutissement de ces lois normales, ben, ça a été la théorie des erreurs. Alors, au niveau des lois physiques, bien, elles sont essentiellement issues d'invariants qui ont été repérés à partir de nombreuses observations ou de nombreuses mesures. Mais quand on fait une mesure ou des mesures d'une même quantité, eh bien on va obtenir des résultats qui vont être différents. Alors, ces résultats différents sont souvent voisins malgré tout, hein, donc, sauf avoir erreur de manipulation ou mauvaise lecture ou autre. Mais on va avoir tout ça. Et le problème qui s'est posé par la suite, hein, donc ça a été un des gros problèmes quand ils ont cherché à mesurer la Terre, par exemple. Donc là, ils avaient à faire des mesures et à les cumuler entre elles et à les organiser entre elles. et ils se retrouvaient avec des valeurs approchées et des choses qui n'étaient pas toujours les mêmes pour plusieurs mesures de la même quantité. Et la question a été de déterminer alors ce qui a été appelé la vraie valeur, comme s'il y en avait une fausse, mais enfin bon, la valeur visée, ou du moins, si on ne peut pas avoir la vraie valeur, eh bien, une meilleure valeur possible de ce que l'on cherchait à obtenir. Et donc, ça a été le cas en particulier pour l'astronomie. Donc là aussi, des mesures qui étaient donc inaccessibles et donc que l'on faisait par l'intermédiaire d'autres de calculs, hein, et la géodésie, donc qui ont été les points de départ de ce travail sur la théorie des erreurs. Alors, cette théorie des erreurs, eh bien, elle ferait mieux de s'appeler la théorie des écarts, puisqu'en fait, ce qui a été travaillé, ce n'est pas des erreurs, hein, au sens moderne des choses, mais sur des écarts. On va voir ça par la suite. Donc, c'est ce qui a été fait au XVIIIe siècle, où on s'intéresse alors non plus aux valeurs que l'on obtient, mais aux écarts entre ces valeurs et la vraie valeur que l'on vise. Bon, sachant qu'on ne la connaît pas, puisque c'est celle que l'on recherche. Et il en a été fait à ce moment-là une analyse probabiliste avec deux hypothèses. Ben, la première, c'est que la somme des écarts positifs est égale à la somme des écarts négatifs, donc qui revenait en gros à privilégier la moyenne des observations que l'on faisait. Et puis la deuxième, dans un premier temps, qui a été de rendre minimale la somme des valeurs absolues des écarts et d'avoir un aspect petit pour ça. Hein, on verra par la suite que ça a évolué et que ça a été fait autrement. Alors, cette façon de procéder a conduit donc à répartir donc les erreurs, à regarder plutôt comment se répartissent les erreurs ou les écarts par rapport à la vraie valeur, et plusieurs distributions étaient envisagées. Donc, une qui a été proposée par Lambert, alors on ne sait pas trop comment il a obtenu ça, mais on pense que c'est un lissage de courbes ou d'observations qu'il avait faites, et puis une qui a été obtenue par Laplace et qui a comme équation y égale k sur 2 exponentielle de moins k valeur absolue de x. Alors là, vous reconnaissez un truc qui ressemble un peu à l'équation de la loi normale, mais il n'y a pas de carré. Et du coup, ça fait cette pointe ici. Hein, et il y avait toute une recherche pour essayer de voir comment se répartissent les erreurs. Et ce qui était recherché, c'était le fait que finalement, les grands écarts étaient plus rares que les écarts plus petits, hein, plus faibles. Et donc, on avait cette convergence vers zéro pour les grandes valeurs. Alors, aussi bien ici que là. Et finalement, donc c'est Gauss, donc c'est lui qui, au début du 19e siècle, a transformé les deux conditions en une condition non plus sur la somme des valeurs absolues, mais la somme des carrés des écarts. Et à partir de là, eh bien, la distribution qui a été adoptée, ça a été une distribution normale. Et elle a servi à modéliser la façon dont se répartissent les mesures que l'on observe autour de cette vraie valeur qui est la valeur visée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on utilise encore de nos jours. Hein, j'en parlerai tout à l'heure quand on cherche à quantifier les incertitudes de mesure, incertitudes de mesure, hein, tout bêtement. Et je vous montrerai comment en physique, maintenant, on utilise ces résultats-là pour donner les mesures avec une incertitude type associée. Hein, donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais c'est la suite logique de ce travail-là. Voilà. Alors, et après, donc il y a eu d'autres mathématiciens qui se sont emparés de tout ça. Alors, un qui a beaucoup travaillé, c'est Quetelet, donc qui était un mathématicien belge, et qui a utilisé les lois normales pour d'autres phénomènes que des erreurs de mesure. Alors, erreurs entre guillemets. Hein. Alors, par exemple, sur les séries biologiques. Et lui, il a travaillé beaucoup sur les mesures ou les mensurations des conscrits, puisque là, c'était une population qui était facilement accessible, hein, qu'ils avaient sous la main. Alors, il y a eu des mesures sur la taille, sur le périmètre crânien, enfin, je ne sais plus, il y a tout un travail autour de ça. Et le travail de Quetelet, donc, ça a conduit à établir ce qui a été appelé l'homme moyen. Et donc, en fait, cet homme moyen, c'était un homme idéal, hein, qui n'était pas atteint, et il considérait que chaque individu était une copie de cet homme moyen. Et en fait, les erreurs de mesure se retrouvaient dans les écarts entre les individus et l'homme moyen idéal. Et ce travail-là, ici, est encore utilisé maintenant. Hein, quand on fait une chaise, eh bien, c'est pour un homme moyen. Les petits, ils ne s'y retrouvent pas, ils n'ont pas les pieds qui touchent par terre. Et les grands, ils ne tiennent pas dedans. Et dans les avions, c'est pareil. Hein, donc là, il y a périodiquement des études qui sont faites. Il y en a une qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, je pense que ça fait 1 ou 2 ans, hein, où on a remesuré, on a repris des échantillons de personnes, et on a remesuré, on a refait des normes pour le mobilier, pour les vêtements, enfin pour tout un tas de choses qui sont normalisées et qui sont utilisées comme ça. Hein, les longueurs des lits, par exemple, c'est fait pour l'homme moyen. Les trop grands, ils se font faire des lits sur mesure. Hein, et donc, c'est la suite de ces travaux-là, hein, ou le prolongement de ces travaux-là. Et puis, deuxième, ça, je l'ai déjà dit, hein, c'était sur le vocabulaire de loi normale. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et la dernière phase, c'est donc le travail d'Adamar qui a montré l'intérêt des lois normales dans les contrôles des produits industriels. Hein, et donc là maintenant, les contrôles de qualité et tout ça sont des poursuites de ces travaux-là. Hein, donc avec le... Voilà. Alors maintenant, à quoi elle sert ? Eh bien, avant de dire à quoi elle sert, j'ai besoin de définir ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Alors ça, c'est un vocabulaire un peu récent dans l'enseignement, hein, qui est apparu il y a 2-3 ans. Alors, qui est quelque chose de bien pratique, puisque finalement, quand on a une distribution, bon, par exemple ici, une distribution normale, puisque c'est celle qui nous intéresse, mais c'est valable pour n'importe quelle distribution, eh bien, on va regarder des intervalles qui contiennent les valeurs avec une certaine probabilité. Vous voyez, par exemple, ici, celui que j'ai pris, moins 1, ça donne une probabilité qui correspond à l'air bleu, qui est de 68%. Hein, si je prends entre moins 2 et 2, eh bien, j'ai mis la même. Là, il y a une erreur de graphique. Hein. Ça devrait aller jusque-là. Ça ne va pas, ça. Hein, donc là, entre moins 2 et 2, ça fait 95. Ce qui est là, c'est juste, mais mon graphique, il est faux. Il faudra que je le change. Hein, ça devrait être jusqu'ici. Et puis, si je fais... Alors, celui-là, c'est lequel ? Là, c'est entre moins 3 et 3. J'ai ça. Donc là, on a un intervalle de fluctuation. Alors, j'ai pu le faire ici. Un intervalle de fluctuation à 68%. Un intervalle de fluctuation à 95%. Et un intervalle de fluctuation à 99,7%. Alors, ces intervalles de fluctuation, on les retrouve dans différentes situations. Alors, on les retrouve pour l'homme moyen. Donc là, j'ai pris l'exemple des chaises. Alors ça, c'est une norme pour fabriquer une chaise. Donc l'assise doit être située à 45 cm du sol. Elle représente un trapèze de 45 cm. Enfin, je ne vais pas tout vous lire. Hein, je vous laisse le lire vous-même. Mais ça correspond à installer correctement un homme moyen. Alors, ou un homme moyen, ou un intervalle autour de l'homme moyen pour qu'il soit bien installé. Là, c'est une norme pour fabriquer des chaises. C'est codifié, je pense, oui. Alors, norme AFNOR, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est respecté par les fabricants. Où ça ? Non, parce que c'est pour la fabrication. Hein, donc, après, il y a peut-être d'autres choses qui interviennent. Hein, je ne suis pas du tout ébéniste ni rien, mais il y a des quantifications qui sont faites, oui.
Non, mais je pense que c'est une allusion au paradoxe qu'il y a. Si on prend, au lieu de parler de personnes, mais on prend des cubes, par exemple, on prend des cubes, s'il y en a un, la moyenne des côtés, ça fait une valeur. Mm-hmm.
Tout à fait. Alors, d'accord, je comprends. Mais là, ce qui a été fait, c'est un travail sur essayer de décrire au mieux quelqu'un qui puisse rentrer dans tout, quoi. Ils ont fait en sorte que le matériel que l'on obtienne puisse convenir à plusieurs personnes. Hein ? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça, j'y connais vraiment rien. Ça, c'est un peu le paradoxe des statistiques. Puisque pour faire de la statistique, il ne suffit pas d'être matheux. Il faut aller aussi voir le domaine où on travaille. Parce que le traitement mathématique, si on est matheux, ça va. Mais il faut travailler en amont avec les gens du terrain, pour savoir à quelles questions ils veulent qu'on les aide à répondre. Puis après, il faut retravailler avec eux une fois qu'on a répondu pour voir si ce qu'on a répondu va leur convenir à eux d'un point de vue pratique. Hein? Et là ben, je me retrouve dans une situation où je vous montre quelque chose et je sais que mathématiquement, ça sert et c'est en lien avec ce que j'ai donné. Mais alors après, je suis incapable, parce que je ne suis pas ébéniste ou pas fabricant de chaises, je suis incapable de dire il y a ci ou ça qui peut se passer. Et là, il aurait fallu qu'on invite quelqu'un qui soit de ce domaine-là pour pouvoir faire en sorte qu'il intervienne avec moi et qu'on puisse faire des choses.
Il y a aussi le danger de l'idéologie, c'est-à-dire qu'à partir de ces théories de...
Ben, tous les problèmes de génisme, oui. Voilà. Et ce que tu dis, ça va tout à fait dans ce sens-là, puisque Galton a été un des premiers eugénistes. Hein, puisqu'il a quantifié les choses et en déclarant anormaux les gens qui ne faisaient pas partie de la norme. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, autre chose aussi où les intervalles de fluctuation servent, c'est dans les courbes de croissance, hein, qu'on retrouve dans les carnets de santé, par exemple, hein, où on a donc des courbes avec ici... Donc, des pourcentages, alors on ne les voit pas bien, il y a 3%, alors attendez que je les vois bien, il y a 3%, 25%, je crois, 75 et 97. Voilà, hein, donc on se retrouve avec, par exemple, pour, ça c'est, je crois que c'est des mois, hein, donc là, pour des mois, ben, le bébé en question, il doit se retrouver avec une taille entre 67 et 77 cm. Mais là, ça veut dire que ben, 3% des enfants... d'un mois ont une taille inférieure. Hein. 25, ça doit faire 22% qui sont là-dedans, 22% nouveaux, et puis 3% qui sont au-dessus. Et là, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on construit des intervalles de fluctuation. Donc, on va installer comme s'il y avait des lois normales à chaque étape, hein, qui va représenter la distribution de la taille des enfants. Hein. Et donc, on se retrouve avec plus ou moins... Alors ici, trois écarts-types, hein, puisque là, je vous ai dit tout à l'heure qu'à 97%, on obtenait ça, donc à différents endroits et avec différents étalements. Alors donc, là, je l'ai fait pour la taille, mais on aurait la même chose pour le poids ou différentes choses. Hein. Alors, on a la même chose aussi dans les analyses médicales. Hein, je ne sais pas si vous avez eu des analyses de sang ou autre, il y a ce qui s'appelle des plages de normalité. Et donc, ces plages de normalité, elles sont établies. Alors là, je vous en ai mis un exemple. Alors là encore, ne me demandez pas des explications parce qu'il faudrait que je sois spécialiste médical de ça. Et donc là, c'est des choses que j'ai reprises. Voilà. Il y a, à partir d'un échantillon, donc là, ils ont pris 388 échantillons et ils sont arrivés à classifier les gens. Hein, donc ceux qui ont un dosage normal, ceux qui sont en hypothyroïdie, ceux qui sont en hyperthyroïdie. Et ils sont arrivés à le classifier comme ça. Et d'où aussi ce qui se passe, hein, si vous faites des analyses avec deux laboratoires différents, eh bien vous pouvez avoir des plages de normalité qui sont différentes, parce qu'ils n'utilisent pas la même technique, les machines ne sont pas les mêmes, et donc les normes ne sont pas les mêmes non plus. Alors, ce qui veut dire aussi que si vous êtes ici à moins de 0,89, ben de deux choses l'une, soit vous êtes effectivement malade et vous avez une hypothyroïdie, soit vous faites partie des gens normaux, qui se retrouvent dans les 3%, ou oui, je ne sais pas combien c'était le pourcentage, là. Je n'ai même pas dit. Hein, donc, vous peut-être vous retrouvez dans les 3% de gens normaux qui ont un taux thyroïdien plus faible. Hein, et donc là, il y a tout le problème du risque et de ce qu'on en fait. Hein. Voilà, hein, étant donné que ce sont des normes qui sont établies à partir de ça. Alors, dernier point où ces intervalles de fluctuation sont utilisés, c'est pour le contrôle de qualité. Avec, alors là, je vous ai mis une carte de contrôle pour la moyenne, donc avec ici donc la moyenne qui est visée, bon, qui est marquée à zéro, mais c'est plutôt zéro écart-type, hein, d'écart. Et ici, je crois que c'est deux écart-types, je ne sais plus. Normalement, ça devrait être 2 et 3, donc ça devrait être un peu plus long. Enfin bon, peu importe. Hein. Il y a à chaque fois deux limites de contrôle, et puis après, des limites de surveillance et des limites de contrôle. Et lorsqu'on étudie un phénomène, on va surveiller la façon dont le phénomène évolue avec des cartes de ce type-là. Et quand on a des points qui se situent entre les deux courbes de contrôle, tout va bien. Quand ça commence à sortir par là, eh bien, on va commencer à se poser des questions et on va examiner de façon plus approfondie le phénomène. Alors, soit la machine continue à bien fonctionner, et puis là, il y a eu un truc à un moment donné qui fait que ben, ça dysfonctionne. Hein, ça s'est coincé quelque part, où la matière première n'était pas uniforme, il y a quelque chose qui a coincé, et puis ça recontinue à bien fonctionner. Hein, ou alors, ça va carrément en dehors comme ça, et alors là, il faut tout arrêter, re-régler la machine, voir ce qui s'est passé, etc. Et donc, on a des critères comme ça pour surveiller la façon dont évolue un usinage ou par exemple des contrôles dans les taux bactériens aussi, des choses comme ça. On regarde et il y a des critères alors, qui doivent être définis à l'avance. Hein, ce n'est pas en voyant comme ça, on se dit finalement tout va bien. Mais on se dit par exemple, ben, si j'ai un certain nombre de points au-dessus ici, ben, ce n'est pas forcément bon parce que normalement ça devrait fluctuer de façon aléatoire au-dessus et en dessous. Alors, par exemple, si tout est au-dessus, ben, ça ne sera pas bon. Si tout est en dessous, non plus. Si ça va plus de 3 fois dans cette zone-là, on va s'arrêter aussi. Enfin, il y a plein de critères comme ça qui sont établis. Alors, avec celui qui fait l'étude statistique et les gens du terrain, parce qu'aussi, il faut voir que si on arrête une production, ben, ça coûte des sous. Hein, donc, il faut faire un compromis entre un arrêt pour rien de la machine qui va coûter ou, au contraire, un non-arrêt de la machine qui va produire des choses qui vont être défectueuses. Hein, donc là, c'est un travail de partenariat entre ben, ceux qui vont gérer les coûts, ceux qui vont mettre en place les choses d'un point de vue statistique, et puis les gens du terrain. Vous avez des bavards. Voilà, donc ça, c'est les cartes de contrôle. Hein, donc ça, c'est utilisé. Donc on peut faire des cartes de contrôle pour la moyenne, alors là, j'ai mis celle-là parce que, ben justement, ces moyennes, souvent, elles sont représentées par des... Elles sont modélisées plutôt par des lois normales. Hein, oui ?
J'avais une question en fait de statistiques. Si vous avez, par exemple, 2 courbes de Gauss qui sortent d'une statistique, au point de vue mathématique, ça veut dire quoi ?
Alors, 2 courbes de Gauss qui...
Si vous faites un échantillon statistique, au lieu d'avoir une courbe, dans vos exemples, tout va très bien, vous avez toujours une courbe de Gauss, mais si vous avez 2 courbes de Gauss...
Alors, 2 pointes, vous voulez dire ? Voilà. Alors, Alors, si on a une distribution qu'on dit bimodale, hein, quand on a une seule bosse, on dit qu'elle est unimodale, et quand on a 2 bosses, elle est bimodale. Alors, souvent, ce que ça traduit quand on a 2 bosses comme ça, c'est qu'il y a un mélange de populations. Hein, et donc, il y a en fait 2 populations qui ont été mélangées, alors, soit involontairement ou autre. Et donc, on cherche à interpréter cette bimodularité. Le caractère bimodal, je vais dire ça comme ça, le caractère bimodal par un mélange de populations. Donc là encore, il faut revenir avec les gens du terrain pour qu'eux, ils soient à même d'essayer d'expliquer.
Vous avez dit, par exemple, pour l'histoire de machines, par exemple, oui. Des tests, par exemple, des tests médicamenteux,
oui.
Qui sont passés par les mêmes laboratoires.
Oui.
Donc c'est simplement, là, c'est un problème de mesure.
Alors,
ça ne veut pas dire qu'il y a 2 populations.
Non, alors là non. Là, je n'ai pas 2 courbes de Gauss simultanées. J'ai 1 courbe de Gauss pour le traitement par une machine et 1 courbe de Gauss par un traitement pour une autre machine. Et oui, mais quand on va faire... Le problème, ce n'est pas ça. C'est que quand je vais traiter... ce qu'ils ont besoin, les laboratoires, c'est d'avoir des repères. Donc, les repères sont spécifiques à chaque méthode ou chaque machine qu'ils vont utiliser. Ben, oui, ça existe réellement. Si on fait les mêmes dosages avec 2 techniques qui vont être différentes, les résultats ne seront pas forcément complètement les mêmes parce que la procédure... Alors là encore, vous voyez, là je me retrouve un peu coincée parce que je ne sais pas, moi, comment d'un point de vue pratique ça va fonctionner. Alors peut-être que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas possible parce que d'un point de vue chimique, ça se passe toujours de la même façon. Mais ça peut très bien aussi se passer différemment suivant le réactif que l'on utilise, qui ne va pas forcément réagir avec la même vitesse ou avec la même concentration par rapport à ce qu'on cherche à doser. Mais ça, je ne peux pas en dire plus, moi, parce que ben, je ne suis pas spécialiste de chimie. Mais ça peut arriver. Alors, ce que j'ai confondu, c'est si on avait, quand on décrit une population, avec 2 bosses. Mais la même population et les 2 bosses. Donc là, Alors attendez, je dois en avoir une. Attendez, je vous le montre. Hein, par exemple, si je le... Oui, voilà. Voilà. Hein. Alors, attendez, celle-là. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui date de l'époque de Galton, quand il travaillait sur les conscrits. Et donc, ils avaient obtenu une distribution. Alors, je ne sais plus si c'est les tailles. Oui, c'est les tailles. Hein, donc, ils avaient obtenu comme ça une distribution de cette forme-là avec deux bosses. Et donc, ils en étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait deux types de personnes dans la population qu'ils étudiaient. Alors, je ne sais plus, hein, je l'ai lu, mais je ne sais plus exactement. Mais ils avaient interprété ça comme des gens, entre guillemets, ça pouvait être ça, mais peut-être pas, des gens bien nourris et d'autres moins bien nourris qui faisaient en sorte que leur taille n'était pas homogène. Hein, mais ça c'est, vous voulez, les graphiques statistiques conduisent à mettre en évidence ces deux bosses, et après, c'est les gens du terrain qui vont dire, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a deux bosses. Et là, il faut vraiment que les gens du domaine s'y collent. Le matheux, il ne pourra pas dire ça vient de la malnutrition des champs. Il va pouvoir pointer du doigt en disant, voilà, ici, il y a quelque chose qui se passe. Mais le matheux peut dire il y a deux populations. Il va avoir tendance à dire ça. Peut-être qu'il n'y en a qu'une. Et que, si vous voulez, c'est le hasard qui a fait que ça se passe comme ça. Oui.
Ce graphique est issu d'un dictionnaire de médecine qui est dû à Bertillon. Et en fait, c'est des conscrits qui ont été mesurés, parce qu'à l'époque, ça se faisait quand il y avait l'armée, quoi. Et en fait, ils se sont aperçus de ça. Et donc, il y a deux analyses qui ont été faites. D'abord, c'est des répartitions qui sont données en classes. Et à partir du moment où on change une répartition et qu'on change l'amplitude des classes, on change évidemment la représentation graphique que l'on obtient. C'est assez connu dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est que là, une analyse plus précise qui a été faite après, c'est qu'une partie de ces conscrits, il y en a qui venaient, parce que ça a été pris dans l'Est, et il y en a une partie qui venait de montagne et une partie qui venait de plaine. Et donc, ils ont émis l'hypothèse suivante, c'est que ceux de grande taille venaient des plaines et ceux de petite taille venaient des montagnes. Donc voilà, mais je n'en sais pas plus là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de quand on a deux analyses différentes, par exemple, il existe une norme AFNOR, qui est comment on peut faire pour comparer deux méthodes d'analyse de laboratoire. C'est-à-dire, vous avez une méthode pour analyser, je ne sais pas quoi, le sucre dans le sang, par exemple, qui coûte un certain prix, vous obtenez des résultats, et puis il y a un gars qui fabrique une nouvelle machine. Alors évidemment, il obtient des résultats qui sont différents, et le problème qui se pose, c'est est-ce que les résultats sont comparables d'une certaine façon, même si ce ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut obtenir la même catégorisation des malades ou des bonnes santé ou je ne sais pas quoi. Et donc là, il y a des protocoles qui sont prévus pour comparer des méthodes. Voilà. Mais vous avez une norme AFNOR là-dessus.
Voilà, c'est une analyse à laboratoire.
Voilà, c'est ça. Mais il y a 50 pages.
Voilà.
Et puis de toute façon, dans une analyse statistique, il y a toujours des différences de protocole, mais même pour un protocole idéal parfaitement identique, on analyse un échantillon d'une population qui donnera des résultats différents en fonction des échantillons. Tout dépend de la taille de l'échantillon, il faut la taille la plus grande possible pour avoir la meilleure moyenne. Donc,
effectivement, tout dépend de comment ils ont été obtenus. Alors, attendez, que je finisse de chercher où j'en étais. C'est-à-dire que s'il y a vraiment deux populations, peut-être qu'elles se justifient, les deux bosses. Hein, qu'il y a une grosse partie, il y a une partie de l'échantillon qui va donner une bosse et l'autre partie qui va donner l'autre bosse. Et donc, s'il n'y en avait qu'une, oui. Voilà. Là, ce serait dans le cas où il n'y a qu'un type de population. Finalement, ça aurait été le hasard qui fasse que ça se distribue comme ça. Mais s'il y a effectivement deux populations qui conduisent chacune à leur courbe, leur distribution en cloche, bien ça resterait quand même avec deux bosses normalement. Normalement oui. Voilà. Alors, il y a aussi ce qu'on veut faire. Si on veut montrer que les femmes et les hommes sont plus grands ou plus petits, On ne va pas s'amuser à les mélanger tous pour histoire de voir si ça se sépare. Hein, là, dans ce cas-là, on va faire une étude sur les hommes, une étude sur les femmes, et puis on va regarder. Hein, là, ce que je dis, c'est que simplement, quand on obtient un graphique du style qu'on avait de celui-là, il peut laisser supposer qu'il y a un mélange de populations. Hein, mais si à l'avance, on suppose qu'il y a une différence dans les deux populations, mais on va faire une étude séparée sur les uns, sur les autres, et après, on va comparer. On ne va pas s'amuser à tout mélanger pour se dire, voyons, ce n'est pas un critère de deux populations. Hein, ça peut laisser supposer qu'il y a deux populations, mais si on le suppose à l'avance, on va essayer de le démontrer directement. Hein. Voilà, alors, je vais aller un peu plus vite pour la fin. Voilà, alors, donc, le deuxième cas où on va utiliser tout ça, ben, ce sont les intervalles de confiance qui, eux, sont utilisés dans le cadre de l'estimation. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, là, on va avoir une démarche qui va donner, avec un certain niveau de confiance qui sera fixé à l'avance, un intervalle qui contient la valeur inconnue que l'on cherche à estimer. Alors, de quelle façon ? Eh bien, on va, pour une proportion P que l'on cherche, alors je me suis placée dans ce cadre-là pour les sondages, par exemple. Hein, donc, on cherche à évaluer une proportion P d'une propriété dans une population statistique et cette proportion, on va l'estimer avec l'observation d'un échantillon qui va avoir une fréquence petit f correspondante. Donc, pour l'échantillon petit. Et ce qui va conduire à l'intervalle de confiance, ça va être la démarche suivante. Donc, on va dire que f, donc ce que l'on a observé, appartient à l'intervalle de fluctuation correspondant à ce que l'on cherche. Donc là, pour la proportion, une proportion qui existe, enfin qu'on ne connaît pas mais qui existe, elle a un certain intervalle de fluctuation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et si on suppose que f est dans cet intervalle de fluctuation, eh bien on va récupérer tout un tas de valeurs de p possibles. Hein, il y aura celle. Alors attendez, je crois que j'ai fait un graphique après. Voilà. Hein, vous voyez, par exemple ici, j'ai mis ici les différentes valeurs de p et j'ai marqué les intervalles de fluctuation correspondantes. Hein, normalement, ils seraient là sur l'axe des abscisses. Vous voyez, par exemple, ici, pour P égale 0,2, eh bien, je crois que je l'ai fait à 95%. 95% des observations se situent là-dedans. Hein, pour P égale 0,6, eh bien, 95% des observations se situent entre ça et ça. Hein, et donc, on se retrouve comme ça. Alors, quand on a une valeur observée, donc là, par exemple, j'ai pris 0,6, ça va un peu plus vite, j'ai pris 0,6, eh bien, je vais retenir uniquement les valeurs de P qui font en sorte que ce 0,6 se situe dans l'intervalle de fluctuation. Donc, vous voyez, pour celui-là, c'est limite. Là, c'est bon. C'est dedans. Et c'est là. Et ça me donne en face un intervalle de valeur de P compatible au sens du critère que j'ai pris. Et à ce moment-là, ça me donne ici un intervalle de confiance de P. Et à ce moment-là, ben, c'est ça qu'on va prendre comme estimation. Vous voyez qu'à partir d'une observation de la fréquence, j'obtiens un intervalle de valeur de la proportion que je cherche à estimer compatible pour ça. Alors, ce qui se passe là, ben, c'est que la méthode, elle marche dans 95% des cas. Hein, avant que je prenne l'échantillon, j'ai 95% de chances que ça me donne, au bout du compte, un intervalle qui va bien. Alors, pourquoi ? Ben, imaginez que la bonne valeur de P, ça soit le 0,3, là. Eh bien, si je suis là avec mon 0,6, ça veut dire que mon 0,6, il fait partie des 5% de valeurs les plus rares. Et je n'ai pas eu de chance, je suis tombée sur un intervalle qui était avec une valeur observée en dehors de l'intervalle de fluctuation. Donc ça se produit dans 5% des cas. Et donc dans ce cas-là, eh bien, j'aurai un intervalle qui ne contiendrait pas la proportion. Donc la confiance que j'accorde, c'est la confiance dans la méthode qui se trompe dans 5% des cas si mes intervalles de fluctuation sont faits avec un niveau un seuil de confiance de 5%. Voilà. Alors, pour terminer donc avec les incertitudes de mesure, hein, donc auparavant, ce qui se passait, ben, quand on avait quelque chose que l'on visait, on avait une incertitude qui était associée à la mesure et on se disait ben, la vraie mesure, elle est, si on avait mesuré x1, elle est entre x1 moins ε1 et x1 plus ε1. Et si ces valeurs x1 intervenaient dans un calcul avec x2, donc là, j'ai fait ce qui se passait avec x1 plus x2, eh bien, on allait jusqu'au maximum. Ici, je disais, ben, si x1 est entre ça et ça, x2 entre ça et ça, ben x1 plus x2, ça se trouve entre ça plus ça et ça plus ça. Sachant que pour arriver au bout, ici, il fallait vraiment que ce soit les deux extrêmes du même côté qu'il donne. Alors ça, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait des études. Maintenant, c'est plus ça qui se passe. On quantifie les incertitudes par des intervalles de confiance. Hein, donc ça, c'est les nouvelles façons d'interpréter les choses dans le cadre de la physique. Et donc, on donne une expression de l'incertitude de mesure avec un intervalle de confiance. Alors, je vous en montre un exemple possible. Hein, donc, par exemple, pour un certificat d'étalonnage d'une résistance électrique, donc on donne le résultat sous cette forme-là. Donc ça, c'est la valeur de la résistance, l'incertitude associée et le niveau de confiance de l'intervalle correspondant. Hein, donc ce qui veut dire que la méthode qui a servi à établir ça, eh bien, donne un intervalle hein, qui est ça plus ou moins 129 micro-ohms, et que la méthode, elle donne un intervalle qui contient la valeur visée dans 99% des cas. Mais je ne sais pas hein, si cet intervalle-là contient ou non la valeur, parce que là, tout est fixé, il n'y a plus de probabilité. Hein, les probabilités, elles sont avant que j'ai mis en place le raisonnement. Mais le 99% décrit la qualité de la méthode utilisée. Hein, et donc après, on peut en déduire l'incertitude type, hein, puisque à chaque niveau de confiance est associé un coefficient. Hein, et donc pour 99, c'est 2,58, pour 95, c'est un 96 et un 64 pour 90. Hein, et donc à ce moment-là, on a un travail sur les incertitudes types que l'on peut réintroduire aussi dans les calculs. Hein, si par exemple la résistance va servir pour calculer autre chose, eh bien dans la prise en compte de la résistance pour le reste, on va prendre sa valeur et l'incertitude type associée qui va se cumuler avec autre chose et qui contribuera pour le résultat à construire l'incertitude correspondante. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant à plein. Oui ? Lequel ? Que là, c'est sur l'axe. Là ? J'en sais rien. C'est peut-être c'est l'unité verticale, peut-être bien, oui. Oui, parce que là, c'est bon. Je pense que c'est ça. Oui, c'est l'unité verticale. Voilà. Et donc, pour aller plus loin, ben là, donc ça, je ne vais pas détailler, mais on a la même chose qui se passe dans l'espace, hein, avec à ce moment-là une distribution sur un plan, hein, donc avec plein de petites courbes de Gauss là, qui sont en jaune ou qui se répartissent autour. Voilà. Puis d'autres lois de probabilité qui en découlent. Par exemple, la loi du Qi2. Hein, donc, ceux qui ont fait un peu des maths, ils ont peut-être entendu parler des tests du Qi2. Et les distributions, ce sont des sommes de carrés de lois normales indépendantes. Hein, donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Après, on a d'autres lois, par exemple la loi de Student, donc, qui est, elle, un quotient de loi normale par la racine carrée d'un Qi2 divisé par le nombre de lois normales qui l'ont construit. Hein, donc là, on a une autre loi. On a encore une loi ici qui est un quotient de Qi2. Divisé par leur nombre de lois normales correspondantes. Et à partir de là, ben, on va pouvoir fabriquer, utiliser ces distributions pour décrire d'autres phénomènes. Hein, donc ça a été la base, et ça se conjugue avec tout ça. Voilà. Et puis ici, ben, certains mathématiciens qui ont construit tout ça, hein, donc depuis les années 1655 jusqu'à 1870 pour les plus récents. Hein, donc, toute la participation de tout ça. Gauss, il est... Attendez, hop. Gauss, il doit y être, si, normalement, si je ne l'ai pas oublié. Voilà. Ici, ils sont tous. Voilà. Et puis donc, les documents dont je me suis servi, alors, bon, le diaporama sera mis en ligne. Hein, donc, il y a... Donc, les travaux de la commission inter-IREM dont je fais partie, et donc en particulier Jean-François Pichard qui a fait un gros travail de recherche historique sur différents thèmes et en particulier sur la théorie des erreurs. Donc là, le document, là, il est dans le couloir et j'en ai porté certains exemplaires si vous voulez les regarder. Vous pouvez les acheter aussi si vous voulez. Voilà. Puis après, donc, il y a eu le travail de Jean-Pierre Kahn aussi qui a mis des choses sur le site Images des Maths. Et le dernier, c'est l'article de Bernard Parziz qui est paru dans le bulletin vert de la PMEP, donc l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Donc ça, c'est tout récent, hein, c'est celui de février 2013. Voilà. Et puis donc aussi, il y a un article de Bernard Bruce sur la courbe de Gauss ou le théorème de Bernoulli raconté aux enfants. Donc ça, c'est en ligne aussi. Hein. Voilà. De confiance. Donc voilà, et donc vous retrouvez tout ça en ligne, je vais les donner à Christine pour mise en ligne. Voilà. Merci. Alors réduite, c'est divisé par, c'est on fait en sorte que les écarts soient autour de 1, hein, si vous voulez. Quand on a... Alors, attendez, je vais le dire de façon mathématique. Hein, on a l'écart phi. Là, je suis sûr. Donc, je disais que l'écart... On a un critère qui sert à mesurer la façon dont les choses se dispersent, qui est l'écart type. Et donc, en divisant par l'écart type, on fait en sorte que la dispersion soit mesurée par un écart type qui vaut 1. Et donc, en divisant toutes les courbes, enfin toutes les dispersions par 1, par l'écart type correspondant, on obtient des choses qui sont toutes de dispersion 1 et qui sont comparables. Hein, et c'est pour ça que quand on a le graphique que je vous ai montré, ça ne bouge plus en étalement. Parce que tout est normalisé, tout est ramené à 1. Donc la réduction, c'est ça. Au revoir.
Je ne comprends pas pourquoi, dans le programme, pourquoi on s'entête à vouloir présenter la loi normale à partir du théorème de Laplace, alors qu'en fait, dans la loi des erreurs, effectivement, si on a, et c'est comme ça que c'est présenté dans le document d'ailleurs de liaison avec la physique, quand on mesure un même objet avec un truc fidèle, etc., on obtient facilement cette courbe de Gauss, c'est comme ça qu'elle est présentée. Et pourquoi on ne présente pas cette loi de Gauss, pas cette loi normale, comme on présente par exemple la loi exponentielle, comme en limite de, en faisant des statistiques et montrant qu'on peut lisser par les courbes, etc.
Je ne sais pas. Là, je ne peux pas te répondre. Hein. Je n'ai pas fait partie des gens pour les programmes, mais ça pourrait.
De montrer que cette loi normale existe indépendamment de cette loi normale, cette convergence, même si ça paraît bizarre, surtout en liaison avec le document que vous avez mis en physique, sur ce que vous expliquez à la fin, le problème
des incertitudes. Ça, je ne peux pas te répondre, parce que je n'ai pas du tout participé à l'élaboration des programmes. Et...
Je pensais qu'effectivement, à la commission inter-IRM, il pourrait y avoir... c'est des questions quand même qui peuvent
se... on a soulevé tout ça, hein, quand on a... mais bon, on n'a pas tenu compte de notre avis. Hein. Non, il y a eu vraiment des choses qu'on a soulevées, avec lesquelles on n'était pas d'accord. Mais...
Je voulais te poser une question, mais je ne veux pas t'embêter. c'est difficile de passer de... Tu as dit que facteur Galen, la formule de Stirling, c'est difficile après de joindre la loi normale une fois qu'on a ça.
Oh non, c'est pas direct. Hein. Et après, disons qu'avec cette forme-là, il y a des choses qui commencent à poindre, mais c'est pas un travail direct non plus. Hein. Non. Non, puis je ne suis pas allée au bout du compte de tout ça. Hein, je sais que c'est un cheminement qui est comme ça, mais ce n'est pas immédiat. Hein. Voilà, bon, ben, merci de votre attention.
Merci beaucoup. Merci.